Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission autour des régionales. C'est l'émission dans laquelle tous les candidats pour les élections régionales interviennent. Le but est d'aborder le maximum de sujets autour des enjeux de cette région. Et aujourd'hui, c'est le parti Lutte Ouvrière que nous recevons. Il est représenté dans cette émission par sa tête de liste régionale, Chantal Gomez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors tout à l'heure, vous affronterez, Chantal Gomez, les étudiants en journalisme du Pôle Lardia-Vichy et leurs questions. Mais pour l'instant, Chantal Gomez, parlons un petit peu de ce parti. Un parti historique, quand même, il faut le rappeler, fondé en 1939. Un parti qui porte des valeurs, des idéologies pour faire entendre les travailleurs. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est la grande ligne de votre parti, ça veut dire quoi?
Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est l'intitulé de notre campagne électorale là, pour ces régionales. Et nous, justement, nous voulons nous adresser à tous les travailleurs qui aujourd'hui sont indignés, révoltés, dégoûtés de la politique qui est menée par ce gouvernement qui se prétend socialiste et qui est finalement la même politique que le gouvernement Sarkozy, que le précédent et puis que les autres avant. Mais la situation s'aggrave pour les travailleurs. Nous voulons dénoncer toutes les attaques qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis du monde du travail. Hein. Vous avez vu qu'ils comptent revoir le Code du travail. C'est quand même historique. Le Code du travail, c'est depuis des années et des années qu'il y a eu des luttes pour regrouper tous ces droits que les travailleurs peuvent avoir. Bon, ben là, le Parti socialiste veut les remettre en cause. Non seulement il ne fait rien contre les licenciements, mais il arrose de subventions publiques par milliards les grands groupes capitalistes, les patrons. Et puis il casse aussi, dans le même temps, puisqu'il n'y a plus d'argent, les services publics, il supprime des milliers d'emplois. Il a été vraiment à quatre pattes à tous les niveaux devant ses grands patrons pour finalement leur faciliter la tâche dans les entreprises pour aggraver les conditions d'exploitation des salariés. Et il fait la même chose dans les services publics en licenciant. Alors dans ces élections, nous défendrons un programme. Notre programme, c'est face au chômage, qui est quand même la première des plaies aujourd'hui, c'est d'interdire les licenciements, de répartir le travail entre tous, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de travail, qui se tuent au boulot, qui sont débordés, et puis il y en a d'autres qui sont condamnés au chômage, à commencer par les jeunes, hein, qui galèrent de petit boulot en petit boulot, c'est un véritable scandale. Et il faut imposer l'interdiction des licenciements, il faudra que les travailleurs imposent l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans toucher au salaire. Il faut aussi une augmentation des salaires indexée sur le coût de la vie, puisque le pouvoir d'achat diminue à chaque fois que l'inflation augmente. Et puis, ce que nous proposons, et ce que, justement, personne ne parle, c'est mettre sous contrôle ces grands groupes, ces grandes multinationales hein, qui aujourd'hui commandent au gouvernement, aux différents gouvernements, qui en veulent toujours plus pour accroître leurs profits. Et on voit que des profits, elles en font beaucoup. Il n'y a pas une seule fois où le CAC 40, on ne nous annonce pas qu'il est en progression hein, tous les trimestres. Et ces grandes entreprises, eh bien, il faut que les travailleurs ils contrôlent les comptes de ces entreprises, qu'ils mettent le nez dans les comptes de ces entreprises, savoir ce qu'elles font de l'argent, savoir les plans qu'elles préparent quand elles vont annoncer des licenciements. Donc, bien sûr, ça demande l'abolition du secret bancaire et commercial. Mais vous savez, et des affaires, bien sûr. Mais vous savez, ce programme, c'est des revendications qu'on met en avant le jour où les travailleurs ils prendront vraiment un bon coup de colère et qui décideront de ne plus laisser faire, de s'organiser et de se battre.
Alors justement, moi je suis tombé sur une interview dans Le Progrès, c'était une interview d'André Moulin qui est votre tête de liste sur la Loire. Et le titre de l'article exact c'est « Lutte ouvrière se présente au régional sans programme défini » et votre tête de liste dans la Loire déclare « Dans toutes les régions de France, nous tiendrons les mêmes propos, pour nous il n'y a pas de particularisme régional ». C'est quand même assez surprenant pour des élections régionales, surtout qu'on est dans une région bien spécifique où l'industrie aussi est bien spécifique, qui a ses valeurs, ses identités. Comment on peut justement parler de non-particularisme régional?
Là, c'est le journaliste, là, je ne sais pas, qui a repris pas de programme ou je ne sais pas. Mais là, je viens de vous en donner un de programme.
Oui, mais moi, je vous parle surtout du particularisme régional. Selon vous, il n'y en a pas de particularisme.
Et le particularisme régional, nous, celui qui nous intéresse, c'est le vécu de tous les travailleurs aujourd'hui, de la classe ouvrière aujourd'hui, des jeunes, des retraités, des chômeurs, de ce qu'ils vivent. Alors, nous, on s'adresse aux travailleurs de la région Rhône-Alpes et Auvergne, puisqu'il y a la fusion des deux régions, mais on veut leur dire Bien sûr, la même chose qu'on dit au plan national. Mais vous savez, ce qui se passe dans la région, finalement, c'est la même politique qui est menée au niveau national. C'est un petit gouvernement, bon, bien sûr, qui fait pas les lois, hein, comme l'État, mais qui n'empêche, puise aussi dans les caisses publiques. Alors, je peux vous donner des tas d'exemples locaux, où dans la région Auvergne, par exemple, l'exécutif de la région Auvergne qui va bientôt fermer ses portes, puisque de toute façon, il n'existera plus et la région ne sera représentée qu'à Lyon par l'exécutif de Lyon, eh bien, il a voté avant de fermer 6 millions pour un groupe comme Michelin. C'est une filiale. Mais bon, alors c'est autant d'argent public qui ne vont pas justement au transport de la région, qui ne vont pas dans les universités, dans la recherche, etc. Et ça, on le dénonce parce que c'est la même politique qui est appliquée au niveau régional. Alors notre programme, il est régional, il est national, il est départemental, il est pour tous les travailleurs. Et nous, on veut que ils puissent s'exprimer dans ces élections en disant, en votant pour défendre leurs intérêts de classe. Et personne d'autre ne le fera dans ces élections. Tous les partis, qu'ils soient du FN jusqu'au PS, ils défendent finalement la grande bourgeoisie, ils défendent les patrons, ils défendent ces gens-là qui fréquentent, c'est la même classe sociale. Et personne ne défend la voix des petits, la voix des travailleurs, la voix de ceux qui font tourner la société tous les jours.
Alors Chantal Gomez, justement, vous avez évoqué les décisions prises sur Lyon. Je tiens à propos de Gérard Lenoir, il est vice-président du CESER, le Conseil économique, social et environnemental Auvergne, et il a déclaré ceci.
Je rappelle aussi que vous avez des métropoles qui ne sont pas automatiquement des préfectures de région. Grenoble et des métropoles sans être une préfecture de région. Donc on peut être une métropole et ne pas être une capitale régionale.
On peut être une métropole et ne pas être capitale régionale. On sait que Clermont a de faibles chances du coup d'être la capitale de région. Et nombre d'Auvergnats ont peur d'être mal ou sous-représentés. Qu'est-ce que vous proposez pour
ça ? C'est pas Clermont qui sera la capitale de région, c'est Lyon.
C'est ce que je suis en train de dire. C'est Clermont a de très faibles chances du coup d'être capitale régionale. Alors, ces Auvergnats qui seraient sous, mal représentés, qu'est-ce que vous proposez pour eux ?
Bien, écoutez, moi, je crois que les débats là, de métropole, de région, ça c'est des débats qui intéressent en fait très peu les classes populaires, à part les politiciens pour se partager le gâteau que va être cette nouvelle grande région.
Oui, mais ce qui impacte finalement sur la classe populaire.
Mais les classes populaires, qu'elles soient auvergnates, qu'elles soient de Montluçon, qu'elles soient de comment il s'appelle notre village, excusez-moi,
Ébreuil,
et qu'elle soit de d'Échirolles d'où je suis, de Clermont-Ferrand, et ben les classes populaires, elles seront obligées pour se faire entendre de revendiquer elles aussi, de lutter, pour les régionales, de voter pour Lutte ouvrière, parce que c'est le parti qui défend les intérêts des travailleurs. Et eux, ils sont dans des débats d'institutions de la République qui, finalement, que ce soit au niveau local, à l'échelon régional, départemental ou national, c'est des institutions pour la grande bourgeoisie, finalement, en France, et pour décider de qu'est-ce qui va être bon pour les actionnaires, pour les financiers, comment on va drainer l'argent public vers leurs caisses, et s'ils font tous la même chose. Et ils ont tous des grandes idées, mais regardez où on en est aujourd'hui. Regardez le chômage, 6 millions et en Auvergne, on est touché par le chômage comme on est touché en Rhône-Alpes et partout. Et nous, c'est ça qui nous préoccupe. Et c'est ça qu'on veut discuter dans ces élections. Alors, des programmes, ils vont en avoir tous, des programmes, ils vont être très bien. Ils ne savent même pas s'ils pourront d'ailleurs les financer, parce que là, je vous signale quand même qu'il y a une baisse des dotations de l'État vis-à-vis des collectivités locales. Et puis, des idées pour la région, pour améliorer les transports, pour améliorer l'éducation, pour améliorer des tas de domaines, eh bien, faites confiance aux travailleurs. Demandez l'avis des travailleurs. Je suis sûr que l'avis des travailleurs de la SNCF, il serait bien plus important que tous les bureaucrates qui s'occupent aujourd'hui des transports au niveau de la région. Et nous, eh bien, c'est ce qu'on fait. On veut faire confiance aux travailleurs et demander l'avis à tous les échelons de la population qui travaille et qui fait fonctionner cette société.
Alors Chantal Gomez, dans quelques secondes, vous serez soumis aux questions des étudiants du Paul Lardy de Vichy. Juste, dernière question pour bien resituer votre parti. Je suis allé un peu sur votre site internet fouillé. Vous vous sentez communiste, vous citez Marx, vous citez Strotsky. Est-ce que finalement, suivre leur vision, c'est pas un petit peu dépassé ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des figures plus modernes, justement, pour avoir un parti plus, pas plus attrayant, mais plus cohérent, plus, peut-être plus proche de ces travailleurs que vous citez ?
Eh bien, écoutez, c'est une bonne question parce que oui, effectivement, nous défendons toujours les idées communistes. Hein. Alors, pas les idées du stalinisme, de l'URSS et de Staline, pas la Corée du Nord, pas la Chine d'aujourd'hui, mais vraiment les vraies idées communistes et celles qui étaient portées par Karl Marx, par Engels, par Lénine, et puis par Trotsky, qui a lutté quand même contre le stalinisme et qui a d'ailleurs été assassiné par Staline. Alors nous, c'était les idées de la classe ouvrière, c'était les idées qui faisaient la force du mouvement ouvrier. Et aujourd'hui, les partis, tous ces partis du Parti socialiste au Parti communiste qui se réclamaient de ces idées, ils abandonnent, hein, ils ont jeté l'eau du bain, le bébé avec, et on essaye d'abandonner toutes ces idées. Mais regardez où on en est aujourd'hui, parce qu'avant, quand les ouvriers se battaient, quand il y avait des idées et quand on portait les idées d'une autre société, plus juste, plus fraternelle, une vraie société communiste où la population et les travailleurs ils pourraient s'exprimer, où on partagerait, on produirait en fonction des besoins et pas en fonction aujourd'hui d'une minorité de parasites, eh bien c'est cette société capitaliste, moi, que je condamne.
Mais avant, est-ce que maintenant, dans la société actuelle, c'est possible encore d'avoir ces mêmes valeurs ?
Eh bien, vous verrez. Moi, je crois que, de toute façon, l'histoire, elle nous emmène à nouveau vers ces idées-là. Et les nouvelles générations qui vont se poser la question, les jeunes qui vraiment sont révoltés par cette société pourrie, parce qu'elle est pourrie à tous les niveaux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les attentats dernièrement. Ben, c'est le chaos, c'est la barbarie, c'est les idées réactionnaires du Moyen-Âge. On en est au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on revient au Moyen-Âge. Alors, vous voyez, c'est des idées. Nous, on va à contresens, on va à contre-courant, et on espère que ces idées de solidarité, ces idées de progressistes, eh bien, on veut qu'elles soient maintenues et on défend toujours le drapeau du communisme.
Eh bien, écoutez, Chantal Gomez, vous avez cité cette jeunesse, c'est aussi les étudiants du pôle Lardy à Vichy. Ils vont commencer tout de suite avec leurs questions. Allez, on va attaquer. Moi, je leur laisse carte blanche. Je ne connais pas du tout les questions. On va attaquer avec Mathieu Fontaine, donc étudiant à Vichy. Je te laisse la parole, Mathieu.
Oui, bonjour, Chantal Gomez.
Bonjour.
On va commencer avec des questions économie et emploi. Donc, vous dites vouloir interdire les licenciements. Sauf que souvent, une entreprise dont la santé vacille a besoin de dégraisser la masse salariale. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas justement doper les subventions publiques dans un cas pareil ?
Bien, écoutez, c'est le remède qui est appliqué depuis des années. Hein. Depuis des années et des années, on a baissé les charges sociales, comme ils disent, c'est-à-dire les cotisations sociales qui payaient et qui allaient dans la caisse des travailleurs quand même, de la sécurité sociale, des retraites, etc. On les a aidés à coup de subventions. L'État les a aidés aussi par des commandes d'État. Et résultat, on en est où ? Parce que tous ces champions de la libre entreprise, eh ben, ils emmènent le monde en arrière. Hein. Ils emmènent le monde hippie d'abord toute la planète, hein, et pour ça ils sont capables de faire des guerres, comme là en ce moment ils se préparent à attaquer à nouveau encore un peu plus pour protéger les capitalistes du pétrole et de l'armement. Et toute cette politique, aujourd'hui on en est à 6 millions de chômeurs. Le SMIC, il ne paye pratiquement plus de charges sociales, on leur donne l'argent public. Et bien cet argent, il serait mieux placé dans les hôpitaux, à construire des logements, dans les crèches, dans les maisons de retraite qui manquent partout. Et moi je pense pas que ce soit une bonne solution. Et ça, c'est, ils nous rabâchent cette musique, mais qui nous montre les comptes et qui nous montre les profits, tous ces grands groupes. Parce que beaucoup de petites entreprises dépendent de ces grands groupes. Et aujourd'hui, elles sont malades, elles licencient, elles ferment la porte. Mais la cause de qui ?
Justement,
ces grands groupes.
Si ces petites entreprises licencient, c'est bien qu'elles ne peuvent plus s'en sortir, elles ne peuvent plus payer leurs salariés.
Oui, elles ne peuvent plus payer leurs salariés. Ben, il faut qu'elles soient d'abord ces petits patrons, ben, il faut qu'ils choisissent leur camp et qu'ils soient du côté de leurs salariés, parce que c'est ces grands groupes qui finalement ont le vrai pouvoir et qui commandent à leur larbin politique. Et ben, ces grands groupes, ils sont un danger pour toute la société et on le voit tous les jours. Alors, ces petites entreprises, vous savez, en 1936, quand les ouvriers étaient en grève et qui réclamaient des augmentations de salaire, c'est de l'équivalent d'aujourd'hui de 200 à 300 euros, je crois, ceux qui en parlent, même en mai 68, ils criaient tous qu'ils allaient fermer la clé sous la porte. En 68, c'était pareil. Ils sont encore là, toute la société, toutes ces entreprises, bon, alors bien sûr, qui vont mal, mais ils sont encore là, le système, il est encore là, même ça, donc c'est pas vrai. Et puis ces petites entreprises, elles se font bouffer par les grosses en période de crise. C'est pas les travailleurs qui les ruinent, c'est les grosses entreprises. Les petits commerçants, pourquoi ils ferment leurs portes ? Parce que les grands commerces de l'agroalimentaire, ils imposent leur dictature à tous les niveaux de la société.
Donc interdire les licenciements peut-être à partir d'un certain nombre de salariés dans une entreprise, alors ?
Vous savez, interdire les licenciements, c'est partout. Parce que finalement, ça veut dire aussi que même les petites entreprises, eh ben, il faudra qu'elles soient aidées par les profits des grandes boîtes. Hein. Et les sous-traitants qui font aujourd'hui marner bien souvent leurs salariés parce que de plus en plus leurs marges sont très faibles, eh bien, ils ont aussi ils auraient aussi un retour de tous ces bénéfices que les entreprises elles ont. Je vous signale qu'il y a quand même des milliards. L'État donne pratiquement presque 200 milliards par an. sur un budget de l'État de 350 milliards, au total, entre l'État, les collectivités locales, c'est presque 200 milliards. Ils sont les assistés et ils sont sous transfusion du sang public, là, tout le temps, tous les jours. Toutes ces grandes entreprises, c'est vraiment des parasites aujourd'hui. Et la finance, c'est pareil. L'État s'endette pour alimenter la finance. Il leur donne des pans entiers de services publics. Quand vous voyez les hôpitaux aujourd'hui qui dépendent des financiers, mais c'est catastrophique quand même, c'est scandaleux.
On va rester sur l'économie régionale et les entreprises régionales. 18,4% de la valeur ajoutée d'Auvergne-Rhône-Alpes repose sur l'industrie, quand la moyenne nationale est à 14%. Donc le secteur tertiaire est aussi moins développé en Auvergne-Rhône-Alpes que dans la France entière. À ce niveau-là, hein, je parle. André Moulin, donc la tête de liste de la Loire, Jonathan l'a dit tout à l'heure, a dit qu'il n'y avait pas de particularisme régional. Vous ne trouvez pas que celui-ci en est un ?
Quel particularisme ? Le fait qu'on a plus d'industrie ici.
C'est une région plus industrielle qu'il y a.
Bon, la région Rhône-Alpes est une des régions les plus riches de France. C'est la deuxième après Île-de-France. Bon, bah écoutez, moi, ça me fait une belle jambe. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit toutes les régions où les travailleurs y soient bien et que tous les travailleurs aient du boulot.
On ne gère pas une région industrielle comme on gère une région.
Oui, mais enfin, je les entends, les politiciens, ils disent tous, ben, nous sommes à la tête d'une région high-tech, comment il s'appelle, Kéran, il se balade en VRP, il accompagne les patrons avec l'argent public en avion pour aller leur chercher des marchés, et on est là, on est prêt même à marcher sur l'Auvergne, peut-être qui est plus pauvre, parce qu'en Rhône-Alpes, on a des entreprises high-tech, mais vous savez, moi, je viens d'une région où il y a des entreprises high-tech, la région grenobloise, et bien ST Microélectronique, qui était le phare là, qui a été subventionné, plus de 2,5 milliards de subventions pour cette entreprise, eh bien, il s'apprête à annoncer 1 000 suppressions d'emplois. Et il vient de recevoir 25 millions de la région. Alors, ça, c'est eux qui se gargarisent d'une réussite là, industrielle. En attendant, les grands groupes, ils font ce qu'ils veulent. Et si ça leur rapporte, ils restent dans une région. S'ils ne veulent pas, ils vont ailleurs ou ils ferment. Eh bien, ça, il faut leur interdire. Et il faut que les travailleurs, ils s'invitent sur la scène politique, économique et sociale.
Chantal Gomez, on va enchaîner avec Robin Serradeil, autre étudiant. Salut Robin, on va partir sur un autre sujet.
Oui, Jonathan. Bonjour Chantal Gomez.
Bonjour.
Je voulais rester, moi, sur cette différence, en fait, entre Ronald et Auvergne en ce qui concerne certaines inégalités. Aujourd'hui, vous avez 15,5% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Auvergne, donc 3% de plus qu'en Rhône-Alpes. Je rappelle aussi au niveau du PIB, en fait, en Auvergne, vous avez un PIB de 34 milliards pour un PIB en Rhône-Alpes de 293 milliards. Concrètement, quel levier vous proposez pour effacer les inégalités dans ce contexte, en fait, de fusion des régions ?
Bon, ben là aussi, ils vont tous avoir des solutions. Hein. Je propose sur les inégalités, c'est eux qui les ont creusées. Et puis cette super région Auvergne-Rhône-Alpes, je peux vous dire qu'elle va encore drainer un peu plus l'argent de tous les territoires et partout pour donner aux grands industriels qui sont des Michelin, peut-être qui sont auvergnats ou qui soient dans la région Rhône-Alpes. Bon, donc ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a aujourd'hui des territoires plus pauvres où il n'y a plus rien. Hein, et puis d'autres territoires où ça arrange les grandes entreprises autour de la région lyonnaise, etc. Eh bien, ça, bien sûr que c'est dans un pays qui serait où la richesse serait répartie autrement, ben, on n'aurait pas ces inégalités.
Oui, mais vos propositions, à vous.
Ben, mes propositions, c'est que les travailleurs de Rhône-Alpes et d'Auvergne et de partout dans le pays, eh bien, ils luttent, ils s'organisent et ils décident que ça, c'est plus possible et qu'ils demandent. Vous savez, on a entendu des tas de corporations, les bonnets rouges, les petits patrons, les avocats, les notaires, les agriculteurs, ils ont tous là descendus dans la rue, ils se sont fait entendre. Et ben il faut que les travailleurs aussi ils réclament et que les travailleurs d'Auvergne, les travailleurs de chez Michelin comme dans d'autres des petites entreprises qui seront aussi tirés par les luttes des grandes entreprises, eh bien eux aussi, il faut qu'ils fassent de la politique, il faut qu'on s'organise, il faut que dans ce pays, il manque un grand parti qui défende les intérêts politiques des travailleurs. C'est ce que nous voulons construire.
Vous à la tête de la région, quand même, ce serait déjà un grand pas de franchi pour les travailleurs. Donc déjà, il y aurait quand même des possibilités, des choses à faire. Concrètement, vous à la tête de la région, vous faites quoi pour les
Moi, je pense que si j'étais à la tête de la région, ça veut dire qu'il y aurait des milliers et des millions de travailleurs dehors. Hein, dans la rue, et que là, on en serait vraiment plus du tout on serait plus du tout dans la même situation. Hein. On ne se fait pas d'illusions, on sait très bien qu'on ne va pas gérer la région Rhône-Alpes.
Alors justement, quel rôle vous avez à jouer dans cette grande région, vous, selon vous, en quelques mots ?
Moi, j'ai à populariser un programme, et je défends un programme politique. Et ils sont tous là à défendre des programmes politiques aussi, la politique des grands patrons. Les grands patrons, les patrons en général, ils ont plein de partis qui les défendent. Les travailleurs, ils n'en ont plus. Alors nous, on profite de de ces élections où justement on nous donne la parole, et merci de me la donner dans votre émission, pour défendre un programme politique, pour défendre ces axes de revendication et pour dire que seuls les travailleurs pourront changer les choses. Et vous savez, que ce soit du FN qui se prétend différent et qui a aussi un programme, etc., etc., ils roulent tous pour la même écurie, c'est-à-dire la grande bourgeoisie de la région. Et je dis, si je peux dire un mot aux travailleurs qui s'apprêtent à voter pour le Front National, hein, surtout aux ouvriers, et qui pensent que le Front National va les défendre, eh bien moi je leur dis qu'ils se sont fait rouler par Sarkozy, ils se sont fait rouler par Hollande, ils se feront rouler aussi par Boudot ou par Marine Le Pen, ils seront à nouveau déçus, parce que ces gens-là, c'est les ennemis des travailleurs. Et on l'a vu pendant l'épisode d'Air France, ils ont tous condamné les travailleurs en colère, que ce soit du FN jusqu'à la droite en passant par le PS.
Chantal Gomez, nous allons enchaîner sur un autre sujet avec Anthony Massard. Bonjour Anthony, on part avec toi sur le sujet de la ruralité.
Bonjour Jonathan, bonjour Chantal Gomez. Oui, je voulais parler avec vous de la ruralité. Aujourd'hui, on a une désertification médicale dans nos campagnes. Comment on incite aujourd'hui les médecins généralistes à venir s'installer en campagne ?
Bien écoutez, on pourrait avoir des idées là aussi, hein, à demander aux travailleurs. Moi, je ne sais pas, mais les enseignants qui sont du secteur public, on les oblige à aller occuper les postes partout en France, et c'est fait de manière rationnelle. Or là, avec une médecine privée, avec même, vous voyez, des choses aussi essentielles, des secteurs aussi essentiels que la santé qui est livrée au privé, eh bien finalement, c'est des professions libérales qui font ce qu'elles veulent. Eh bien non, une société évoluée, justement, elle devrait répartir, suivant les besoins, le nombre de médecins. Et puis, vous savez, c'est tout un système, en plus, parce qu'ils ont le numerus clausus, là où ils n'ont pas... Bon, on protège les intérêts de certains, on a libéralisé. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui ont des tarifs prohibitifs. Vous ne pouvez plus aller dans certaines cliniques, parce que c'est les cliniques pour les riches et d'autres pour les pauvres. L'hôpital se dégrade à grande vitesse, ça devient l'hôpital pour les pauvres. On l'a soumis à la finance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ben, tout ça, c'est un plan qui devrait être organisé, et je pense à l'échelle de l'État, et pas simplement à l'échelle d'une région, tout comme les transports d'ailleurs, ça devrait être planifié et organisé pour avoir la meilleure efficacité possible.
Justement, concernant les transports, fin octobre, vous déclariez dans Sa Jazz à Lyon, émission proposée par lyonmanque.fr, il en manque partout, là aussi on peut créer des emplois en construisant des trains de nouvelles lignes ou les rénover. Problème qui, je pense, se pose, comment on les finance ces nouvelles lignes ?
Eh bien, on les finance en prenant sur les profits patronaux, parce qu'il y en a, et il y en a plus qu'il n'en faut. Et à commencer par les transports, où c'est quand même eux, les patrons, qui, si tous les jours, il y a des millions de travailleurs qui vont travailler, c'est quand même pour fabriquer du profit, hein. Donc, c'est quand même normal qu'ils payent d'ailleurs les transports de leurs salariés. Et puis, vous savez, les transports, on les a complètement cassés. Là aussi, la SNCF, elle est soumise au plan des financiers. Là aussi, la SNCF, elle a abandonné les lignes, les petites lignes des régions pour les laisser gérer par les collectivités locales. Et puis, elle s'occupe que de ce qui est rentable. Et on demande à une entreprise publique, comme on demande aux hôpitaux, d'être rentable. Eh bien, forcément, tout ça, c'est à revoir, mais à tout revoir complètement.
Pour vous, l'État doit prendre en charge toutes les entreprises, il doit y avoir une collectivisation, c'est ça ?
Alors, les services publics, de toute façon, c'est évident que quand on paye des impôts pour des services publics, ça serait quand même la moindre des choses que ces services publics ils soient planifié au niveau d'un État. On le voit bien. Qu'est-ce que ça veut dire des régions riches ? D'ailleurs, de la région Auvergne, je crois qu'en matière de transport, là aussi, c'est pareil, il y a fort à dire, et ils sont bien moins équipés que la région Rhône-Alpes.
Hein, sur le plan ferroutier, oui, oui. L'Auvergne est quand même bien lotie.
Voilà,
hein.
Sur le plan ferroviaire. Donc là, ben, ça, c'est pas normal non plus. Les transports, c'est pour transporter tous les jours des millions de gens. C'était avant. Pourquoi la SNCF était planifiée nationalement ? Pourquoi on a tout cassé ? Pourquoi on a donné les TER aux régions et dans certains endroits, maintenant, ça devient du transport de bétail tous les matins par les travailleurs qui prennent le train. Pour les grandes métropoles, ça devient un vrai scandale entre les retards, les suppressions de trains. Et on parle encore de supprimer des lignes. Et on parle encore de supprimer des trains. Bien non, ça ne peut pas se planifier à l'échelle d'une région. Ce n'est pas vrai. Hein. Entre deux villes, vous voyez bien que pour aller de Grenoble à Clermont-Ferrand, on traverse je ne sais pas combien de départements. Bon, on est peut-être toujours dans la même région. Mais si on veut aller après jusqu'à Paris, on n'est plus dans la même région. Donc ça, ils ont... Et puis c'est vrai que les politiciens locaux... Hein, ça les arrangeait d'avoir un gâteau supplémentaire à gérer. Et ils ont protesté, mais mollement, sur la décentralisation de l'État. Mais finalement, ils ont accepté tout. Et ils ont accepté, y compris, de s'occuper aujourd'hui des voies ferrées. Et puis, ils se plaignent parce qu'ils sont mal servis par la SNCF. Ils n'ont pas assez de budget pour équiper les services publics. Voilà où on en est.
Chantal Gomez, je le rappelle, vous êtes la représentante de Lutte Ouvrière, vous êtes la tête de liste régionale. On passe à notre dernier apprenti journaliste, c'est Hugo Sastre. Bonjour Hugo.
Bonjour, bonjour.
On va partir sur le sujet de la TVA avec toi.
Oui, exactement. Dans le programme de 2012, Lutte Ouvrière souhaitait supprimer la TVA, recruter des enseignants et des fonctionnaires ou encore augmenter les allocations. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Vous.
Bien, toujours. La TVA, c'est un impôt le plus injuste qui existe. C'est-à-dire que les travailleurs, les petites gens, le RMiste, ils payent la même TVA que le bourgeois, que celui qui a les moyens. C'est quand même scandaleux. C'est un impôt dont on ne parle jamais parce que le gouvernement dit on va baisser les impôts, on va baisser les impôts. Mais ce n'est pas vrai, il les augmente. Il a augmenté la TVA, il augmente les taxes. Et ça, finalement, cet impôt sur le revenu, là, qui est déjà complètement injuste parce qu'on taxe le revenu du travail, mais qui était un peu proportionnel par rapport au salaire. Là, aujourd'hui, la TVA et toutes les taxes qu'ils sont en train de mettre, on les paye de la même manière. L'ouvrier qui prend l'autoroute, il paye la même chose que Monsieur Michelin qui prend l'autoroute.
Mais vous proposez tout quoi ça, des impôts progressifs
Nous, on propose de prendre sur les profits des entreprises. Et vous savez, il y a des milliards. Et les actionnaires, ils ont engrangé des milliards depuis des années. Alors qu'on commence déjà à leur demander de payer un grand nombre, de les taxer, de prendre sur leurs impôts. Parce que vous savez, ils n'en payent presque pas des impôts. Quand vous voyez quand même que des entreprises comme Sanofi dans la région lyonnaise qui annonce des chiffres astronomiques, 7 à 8 milliards de bénéfices, eh bien elle n'a pas payé d'impôts en 2015. Elle n'a pas payé d'impôts parce que l'impôt lui a remboursé, l'État lui a remboursé avec le CICE, 150 millions d'euros de CICE. Alors regardez ce qu'on pourrait faire avec 150 millions. Eh bien, il y aurait de quoi faire pour améliorer bien des choses et arrêter de taxer finalement toujours les mêmes. Parce qu'ils savent parler des charges, qu'ils ont beaucoup de charges, mais nous, on en a beaucoup trop, les travailleurs.
Mais la suppression de la TVA, recruter des enseignants et des fonctionnaires ou augmenter les allocations, ça fait beaucoup de dépenses, peu de recettes. Ça risque d'augmenter la dette de la région, c'est pas un problème ?
Écoutez, le problème, c'est pas les dépenses et les retraites, c'est la richesse.
Les recettes, pardon.
C'est la richesse que les travailleurs y produisent. Un enseignant, il travaille, c'est une sacrée richesse, la culture. Mais ils arrivent à nous faire mettre dans la tête que la culture, finalement, c'est zéro parce que ça produit pas des bénéfices. On en est quand même à un système complètement aberrant. La santé, c'est pareil, il faut que ça produise des bénéfices. Demain, ils vont nous faire payer aussi l'air qu'on respire. L'eau, il ne faut pas que ça produise des bénéfices. Donc nous, notre problème, c'est de créer pour les besoins de la société et pas rentrer dans leur système économique qui veut que d'un côté, on fasse des profits, de l'autre côté, on n'en fasse pas, etc., etc. Et de toute façon, ils veulent que tous les pans entiers de la société, que même les services publics, tombent dans l'escarcelle des actionnaires, des banquiers, des financiers.
Au risque de s'endetter.
Au risque que les États s'endettent, qu'on retombe dans des situations d'austérité graves, comme on l'a vu regardez comme ils ont mis à genoux la Grèce, comme ils ont mis à genoux d'autres États. Voilà, pourvu qu'il y ait une minorité. Vous savez, aujourd'hui, il y a 63 personnes qui possèdent la moitié, hein, et ce n'est pas nous qui le disons, c'était dans les journaux, la moitié de l'humanité, que possède la moitié de l'humanité. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous trouvez ça normal ? Et est-ce que vous pensez que cette société, on va pas dans le chaos ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle nous emmène où, cette société ? Il faut qu'on arrête de penser comme ils voudraient nous faire penser. Et nous, justement, les communistes, on a d'autres manières de penser la société. On la pense pour le besoin de tous les êtres humains et pour une autre répartition, et puis en fonction des besoins, etc. Quand ils produisent de l'armement, est-ce qu'on en a besoin de l'armement ? Est-ce qu'une société évoluée, elle aurait besoin d'avoir des rafales et d'avoir ce qu'ils sont en train de balancer en Irak ? et on dénonce justement ce qu'ils sont en train de faire en Irak, parce qu'ils font que aggraver justement la situation, et il y aura encore plus de terroristes. Plus ils bombardent et plus ils nourrissent le djihadisme. C'est eux les principaux responsables de la situation.
Chantal Gomez, je crois qu'on a bien compris votre point de vue, une plus juste répartition des richesses. Je le rappelle, vous êtes tête de liste régionale de Lutte Ouvrière. Vous êtes intervenue dans cette émission autour des régionales, émission tous les jours du lundi au vendredi à 9h, midi et 17h30. Je remercie les étudiants en journalisme du Pôle Lardy de Vichy et je vous remercie Chantal Gomez.
Merci de m'avoir invité.